Bonjour, Marco compte à rebours. Compte à rebours, et comme toujours, on a beau avoir changé d'année, d'ailleurs je vous souhaite la nouvelle très bonne à tous, et bien ma foi, l'émission perdure. L'émission continue, avec toujours des choses, alors vous savez ce que c'est cette émission, hein, les contes, des histoires, des blagues, des légendes. Aujourd'hui j'ai quelques nouvelles. Puisque la Noël est passée, j'ai eu quelques livres et notamment certains m'ont inspiré avec des musiques de Nick Bartsch, qui est un musicien assez spécial, hein, répétitif on va dire un peu. Des nouvelles de Leonard Michael, c'est un Américain, mais bon, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. D'abord une petite intro, parce que je me suis dit, bon voilà, nouvelle année, il faut que je sorte un truc incroyable. Hein, et j'avais trouvé un truc incroyable, tout à fait par hasard, en emballant des trucs avec des vieux journaux, j'ai trouvé un journal Le Monde, qui titrait « Les sorcières roumaines ne peuvent plus faire de publicité à la télévision ». J'en avais déjà parlé, peut-être. Et j'ai été surpris de voir ça. Les sorcières roumaines ne peuvent plus faire de publicité à la télévision. C'est en une du Monde, hein, le journal que vous connaissez. Donc je me suis dit, voyons, ce monde-là doit dater peut-être d'une époque quasi médiévale, mais non, 6 août 2002. Alors je me suis dit, voilà un truc incroyable, il faut que j'en parle à la radio, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les sorcières roumaines accusent les autorités de Bucarest d'un retour aux pratiques du Moyen-Âge. Et oui, elles sont emportées par une sainte colère et elles s'insurgent contre la décision du Conseil national de l'audiovisuel de leur interdire la publicité à la télévision. Maintenant, on ne peut plus défendre les pratiques occultes à la télévision et elles sont furieuses. Nous sommes chassés depuis l'Inquisition, s'exclame Rodica, qui est une sorcière, c'est la fille de feu Maman Lavermine. C'était la sorcière la plus célèbre de Roumanie, Maman Lavermine. C'est à cause de l'Église, rajoute-t-elle, et des popes qui nous envient nos pouvoirs. Mais avant d'attaquer les serviteurs de Dieu, les sorcières roumaines devront régler le problème que leur pose le CNA. Nous allons nous rassembler et aller voir le directeur, menace-t-elle. Nous n'acceptons pas d'être marginalisés. En fait, elles ne sont pas vraiment marginalisées, ces sorcières roumaines, que je ne connaissais pas. J'ai appris leur existence dans Le Monde. En fait, une bonne partie d'entre elles sont de véritables stars en Roumanie. Elles passent souvent sur la dizaine de chaînes privées et publiques pour expliquer leur vocation. Moi, Desdemone, héritière des pouvoirs de ma mère et de ma grand-mère, avec un supplément personnel et une renommée internationale, je guéris les 9 maladies que connaît l'humanité. Ce genre d'autobiographie en direct devant les caméras semble très apprécié en Roumanie. Il y a des reportages, des tables rondes, des interviews avec des sorcières. Bref, elles sont partout. Et c'est ainsi que les Roumains ont découvert la grande vedette du milieu sorcier, Maria Simpina, la reine de la magie blanche. Tête sainte d'une couronne en or massif pesant 3 kilos, elle n'a reculé devant aucun argument publicitaire. Regardez cette statue de Jésus à l'échelle naturelle. C'est le pape Jean-Paul II qui me l'a offert pour faire du bien au peuple roumain. Ainsi, voilà, quelque chose quand même qui paraît étonnant que des sorcières comme ça existent et passent à la télévision. On peut dire qu'elles ont surtout quand même, bien sûr, un intérêt financier. C'est leur chiffre d'affaires. Parce qu'il faut signaler qu'elles ont Certaines d'entre elles, les plus célèbres, bâtissent de véritables châteaux et roulent en Mercedes flambant neuve. Elles ont trouvé un bon créneau financier. Passer à la télé, promettre des miracles, et ça marche. Maintenant, plus de télé, ce sera difficile. Alors, pourquoi je parle de ça? Non pas parce que j'en ai après les sorcières, je trouve qu'on les a beaucoup trop brûlées à une époque, parce que c'était en fait une manière de se débarrasser, disons, de ceux qui avaient de l'influence dans le peuple pour pouvoir les dominer. C'était assez nauséabond, cette extermination des sorcières, qui correspondait aussi à l'appropriation des terres, à l'époque de l'appropriation des terres, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Si je parle de ces sorcières, c'est tout simplement parce que je me disais, voilà, j'ai un truc incroyable. Les sorcières roumaines ne peuvent plus faire de publicité à la télévision. Eh bien, et pourtant, il y a quelque chose d'encore plus incroyable qui s'est passé, mais qui m'a désespéré, et que je crois qu'il désespère beaucoup de personnes. Eh oui, un président de gauche, on peut dire, enfin, en tout cas à l'origine, défend un changement de constitution qui inclut la déchéance de nationalité pour ceux qui ont commis des actes terroristes. Alors bien sûr, tout le monde s'exclame, mais bien sûr, un terroriste ne doit pas être français. Oui, on le met où? Alors dans quelle case? Alors, simplement, c'est pour dire que ça donne un sacré coup au moral quand même de voir que bien des personnes qui ont pensé avaient un certain sens de ce qui est ce qui a de la valeur, hein, et bien qui avaient des engagements, des convictions, et bien voilà, à nouveau les pires replis qui ont fait naître le pire au siècle dernier, et bien à nouveau ces pires comportements réapparaissent et portés par un président de gauche, ça nous fait quand même une drôle d'impression. Heureusement, on va réagir. Et ça, c'est la nouvelle pour 2016, parce que sinon, on se réveillera avec le cauchemar qui recommence à nouveau, l'homme qui chasse l'homme pour le malheur de tous. Et ça, ce n'est pas vraiment bon. Donc, peut-être les sorcières roumaines viendront à notre secours, qui sait. En tout cas, après ces quelques errements on va dire européen, hein, entre la Roumanie et la France, je vais partir maintenant dans ce qui fait le cœur de cette émission, des histoires. Léonard Michael, vous connaissez? On dit de Léonard Michael que c'est le plus grand nouvelliste, américain récent. Les histoires que raconte Léonard Michael, d'après le New York Times, sont espiègles, brillantes, irrévérencieuses. Donc j'en ai choisi quelques-unes. Il y en a qui me plaisent, mais il y en a qui me plaisent pas du tout. Il faut choisir. Oui, il faut choisir. Il y en a qui sont lugubres, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont sombres, il y en a qui sont bizarres. Celle-là est assez forte. Elle s'intitule « À coups de poings liés ». Et c'est l'histoire d'un couple. Bien sûr, tout le monde dira « Mais ils sont fous ». Pourtant, on ne peut pas manquer de s'y reconnaître. À la fin de l'été, ou de l'année, ou quand il pourrait exercer son talent autrement qu'en jouant de la guitare dans une boîte de striptease du village, et après avoir observé qu'il avait autant de talent pour reculer devant ses responsabilités que pour les prendre, elle perçut de la mauvaise grâce en elle-même et leur projet de mariage devint incertain. Ces détails flous, fantomatiques. Puis, il finit par se perdre entre les draps où Myron lui fit des choses sales, la travailla au corps et découvrant qu'elle était atteinte d'une arythmie épileptique au niveau du bassin, lui demanda ce que c'était. À quoi elle répondit qu'elle en souffrait, mais elle insista sur ce point, sa tête, elle, n'était pas touchée. Alors ils se disputèrent le lendemain matin, ainsi que le surlendemain, comme s'ils avaient une envie vorace d'intimité, et se couvrirent de honte en hurlant de la sorte, créant une intimité avec les voisins au point que le concierge leur apporta les plaintes, qui n'auraient eu aucune valeur à leurs yeux s'ils n'avaient pas épuisé leur soif de violents coups d'éclat. Mais à présent, conscients de ces inimitiés, ils se contentèrent de jouter à l'horizontale, la position vitale, par mots silencieux, affûtés comme des talons aiguilles. Et plus tard, l'éventail étroit de leur imagination ne leur offrit pas de mode adéquat pour se rétracter, si bien que les blessures s'infectèrent, se mirent à bourgeonner de mauvaises herbes répugnantes, empoisonnant toute réflexion, conversation, jusqu'à l'air de leurs deux pièces, qui, avec sa vue sur les falaises du New Jersey, leur avait semblé autrefois plus vaste. Air qui aujourd'hui paraissait désormais trop épais pour être respiré ou pour qu'il puisse se voir à travers. Mais ils n'évoquèrent jamais la possibilité d'une séparation, même à titre d'essai, car quels qu'eussent été les doutes qu'ils nourrissaient l'un envers l'autre, ces doutes concernant d'autres altérités ainsi que la ville, où ils dérivaient au milieu d'amours scabreuses et sans lendemain, ces doutes étaient trop effrayants, tandis qu'eux, au moins, savaient à qui ils avaient affaire. Sarah avait Myron Bronski, yeux noirs, mélancoliques, une guitare entre les mains aussi mystique et déchirante que, disons, celle de Lorca, même si les mains de Myron, elles, étaient le fruit des rythmes dansants du hasidisme. Myron avait Sarah Nislin, une blonde du Minnesota. Stature élancée, une schizophrénie arctique se lisant dans le gris infini de ses yeux, douée pour la poésie lyrique héritée des maîtres S-Saga de pirates. Phénomène rare, mais les opposés s'attirent dans les angularités séparatrices de Manhattan, et plus la dialectique de l'individuation fortifiée s'intensifiait, plus ces deux-là étaient soudés. Si Sarah, sorti pour faire les courses, n'était pas revenu dans les 20 minutes, Myron se mettait à donner des coups dans le mur, pulvérisant la musique contenue dans ses articulations. Mais frappait encore jusqu'à ce que Sarah entre en trombe en lui hurlant d'arrêter. Et si lui avait 20 minutes de retard en rentrant du travail? Il trouvait Sarah, manteau sur le dos, gants enfilés, foulard sur la tête et noué sous le menton, tel un petit caillou, prétendant se moquer totalement de ce que la nuit pouvait bien lui réserver, puisque si elle s'y faisait violer et tuer, il n'en tirerait que des avantages. Après le travail, il rentrait à la maison en courant. Et elle, si elle s'arrêtait pour acheter une brique de lait ou un paquet de cigarettes, le mal de ventre la prenait. Une lettre arriva de Saint-Cloud, Minnesota. Le père de Sarah allait leur rendre visite la semaine suivante. Elle se mit à coudre des rideaux, plissant les yeux dans la nuit, passant l'aiguille de ses doigts piqués et délicats. Il peignit les murs qu'il avait martelés de ses poings peu de temps auparavant. Elle acheta des plantes pour mettre à la fenêtre, des estampes japonaises qu'elle encadra puis accrocha au mur et peignit les toilettes situées sur le palier d'un jaune mat, sans éclat. Agenouillée jusqu'à l'aurore, 4 jours durant, Myron sabla, puis vernit le parquet jusqu'à ce que le chêne fasse apparaître sa fibre la plus noire, tumultueuse et pétrifiée. Puis l'aube du lundi se leva sur une Sarah en train de repasser des robes, un nombre plus que suffisant pour tenir le temps d'un séjour de son père, et sur Myron qui s'était déjà rasé 2 fois, avait ciré l'intégralité de ses paires de chaussures, tout en incitant Sarah à se dépêcher. Dans sa perfection muette, leur appartement avait l'air d'un esclave bien maté, à la fois mort et vivant, reflétant telle une émanation de leur nervosité, une harmonie sévère, fiévreuse. Pourtant, cela n'aurait eu aucune importance que les nouveaux rideaux, les estampes et ce parquet bouillonnant révèlent de manière flagrante un répugnant chaos spirituel, car le père de Sarah n'était pas ce genre de pasteur. Ses sermons se référaient plus à Sartre et Heidegger qu'au Christ. Il faisait de la musculation, fumait 2 paquets de cigarettes par jour, conduisait une Jaguar verte et depuis la mort, l'année précédente, de sa femme enfermée dans un hôpital psychiatrique, il avait vu une forme d'amour dans toute relation humaine. Il était d'ailleurs probable qu'à cet instant précis, suivant les courbes de l'autoroute à péage de Pennsylvanie, les jointures blanches à trop serrer le volant en noyer, hommes et machines confondus, soient en train de foncer vers le New Jersey et au-delà, vers l'amour. Toute cette situation les poussait à agir, les arracher à eux-mêmes pour transformer l'appartement jusqu'à ce que plus rien ne coïncide avec ce que le père de Sarah y découvrirait de toute façon. Et à 9h, il ne leur restait plus qu'à travailler sur leur être physique absolu. Aussi, Myron alla-t-il chercher ses chemises, pantalons et vestes en toute hâte chez le teinturier, puis il s'habilla de frais, tandis que Sarah abattait son fer à repasser sur la planche et l'y faisait glisser comme prisonnière du rythme d'un labeur abrutissant. Et debout, derrière elle, allumant une cigarette, Myron murmura presque pour lui-même qu'elle devait se dépêcher. Alors, elle se retourna pour lui envoyer le fer à la figure, avant de se précipiter à sa suite, toute griffe dehors, dents découvertes, avant même que le fer n'aille se fracasser contre le mur. Et Myron, comprenant dans la seconde horrifiée que le fer, s'il l'avait atteint, lui aurait brûlé la chair et brisé les os, se jeta sur elle en hurlant, lui réduisant la bouche en bouillie à coups de poing, tous deux étroitement étreints, enlacés, fusionnant comme une seule bête convulsive et valsant contre les murs, les tables, les chaises, les cendriers, les livres et les lampes qui volèrent en tous sens avec des bouts d'eux-mêmes, dont 3 dents de Sarah, qui lui fit sauter avant de l'étrangler jusqu'à ce qu'elle se dissolve entre ses mains, qu'elle lui crève l'œil gauche à coups d'ongles. Mais grâce au progrès en matière de transplantation de cornée, il y avait un espoir qu'il puisse retrouver l'usage de ce globe oculaire. Si bien qu'ils étaient emmaillotés dans des bandages, encore difformes et raides de douleur, une semaine après la non-venue du père de Sarah. Et ils cédèrent au moment de gravir avec difficulté les marches de la mairie, pour aller faire publier les bans. Encore des nouvelles de Léonard Michael, issu d'un recueil qui s'appelle Conteur Menteur. C'est pas vrai ça. Hein. Et là, d'un autre recueil qui s'appelle Sortir dîner, voici Le basketteur. J'étais le basketteur le plus appliqué du monde. Je ne dis pas le meilleur. À mes yeux, j'étais incroyablement bon. Mais en fait, je n'étais que le basketteur le plus appliqué du monde. Je dis ça parce que du jour où j'ai découvert ce que signifiait ce sport à l'âge de 10 ans, j'ai joué tout le temps, jusqu'à mes 25 ans environ. Je jouais dehors, sur le ciment, à l'intérieur, sur du parquet. Je jouais qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il vente. Je jouais dans des gymnases glaciaux. En rentrant à pied à la maison, je continuais de jouer. Jouer pendant le dîner, dans mon sommeil, au cinéma, en voiture, en bus, à la selle. J'ai joué pendant plus d'une décennie, effectuant tous les tirs imaginables, compris à deux mains et selon tous les angles possibles. La foule applaudissait mon jeu. Pas de mi-temps, pas de nourriture, ni aucune autre préoccupation humaine, car année après année, la foule m'applaudissait. Dans les salons, le métro, au cinéma et dans les cours d'école, je l'entendais. Même durant de vrais matchs de basket, je jouais au basket. Je disputais des matchs à l'intérieur des matchs. Le jour où j'ai perdu ma virginité, j'ai esquivé mon adversaire et fait un tir crochet en course. La foule l'a vu. J'ai perdu ma virginité, ma copine aussi. Le match était gagné. J'ai remonté mon pantalon. Elle a remis sa jarretière. J'ai exécuté un tir en suspension en partant depuis un coin. Et déjà, un autre match commençait. J'ai marqué, après une percée en dribble aveugle depuis la touche. On s'est embrassé en se quittant. L'effet était épileptique. Les masses de gens agitaient les bras depuis leur siège, un trou hurlant au milieu du visage. Je leur ai adressé un salut d'un hochement de tête automatique et suis sorti dans la rue, à grande foulée, en dribblant. Un tir désaxé depuis l'extrémité et il resta suspendu en l'air. Puis comme s'il avait été aspiré, le ballon tomba dans le panier. Malgré la rapidité et l'angle de mes tirs, je n'en ratais jamais aucun. Réponse. 12 heures avant les examens, je me suis lancé dans 200 heures de lecture non-stop. Melvin Bloom, mon camarade de chambre, tournait les pages de son manuel dans une transe paisible. Il prenait du plaisir à réviser le travail effectué pendant le trimestre. Il se couchait tôt. Pendant qu'il dormait, je m'enfonçais dans la nuit, lisais tout en gobant de la benzédrine et fumant cigarette sur cigarette. Des nymphes vociférant assaillaient mes notes, des crabes me posaient des questions. Melvin tournait une page, clignait des yeux, en tournait une autre. Il avait cette même façon de tourner les pages, de cligner les yeux pendant les examens, mais sans manuel. Les réponses à chaque question lui parcouraient les nerfs optiques, puis le cou, le bras, et se déversaient sur sa copie, où elle formait une parade impeccable. Je regardais ma feuille, pleine de taches et de ratures, signe d'une grande détresse, et je pensais à Melvin Bloom. Je pensais, oh mon Dieu, que va-t-il m'arriver ? Compte à rebours, déjà fini, et c'est vrai, hein, c'est 20 minutes et quelques, c'est pas très grand. Il va falloir penser à faire une émission d'une heure. C'était donc aujourd'hui des nouvelles de Léonard Michael sur des musiques de Nick Bratches. Difficile à prononcer ça. C'était Compte à rebours, c'était Marco aussi. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.